En effet, les deux principaux ouvrages de Jeanne Morel donc sont Bibliothèque et la librairie publique et apparaissent, comme nous l'avons déjà remarqué, dans un contexte d'effervescence de la pensée bibliothéconomique. À la différence des ouvrages bibliothéconomiques précédents, pensons aux ouvrages de Delille, de Léon Crozet et de Paul Hautelet, Jeanne Morel a une vue, une hauteur de vue assez intéressante qui dépasse les points de vue et les questions purement techniques. Il faudra compléter ensuite ses lectures par celles des conférences de l'EHESS écrites en 1911-1913, les ouvrages sur le dépôt légal étude des projets de loi en 1917 et la loi sur le dépôt légal de 1925. Bibliothèque a été rédigée à partir de 1895 et paraît sous forme d'articles dans le Mercure de France et la Nouvelle Revue Française et est complétée au gré de ses tours d'Europe et du monde au fur et à mesure afin de donner le livre publié en 1908. Deux ans plus tard paraît la librairie publique. Eugène Morel distingue les deux ouvrages en voulant... En affirmant que Bibliothèque est un ouvrage beaucoup plus acerbe et critique, tandis que la librairie publique est un ouvrage plus pratique dans ses affirmations. Pourtant, les deux ouvrages se ressemblent énormément et des chapitres se retrouvent l'un dans l'autre. Donc une organisation parfois un petit peu compliquée à la lecture, parfois même fouillie. C'est pourquoi nous proposons cette synthèse aujourd'hui. Le premier ouvrage se compose donc de trois livres, La Bibliothèque. Donc c'est un panorama des bibliothèques françaises essentiellement, en particulier la nationale, les bibliothèques parisiennes, fort dispersées, les bibliothèques de province et les populaires. Deuxième livre, La Bibliothèque libre, qui est essentiellement une description des bibliothèques étrangères, allemandes, anglaises, américaines notamment. Un troisième livre s'intitule Devant l'invasion des livres, système, classement, catalogue, métier. Revient ici sur les aspects beaucoup plus précis de bibliothéconomie, en vrac sur la gestion des collections, l'architecture interne et externe de la bibliothèque, la formation et le recrutement des personnels notamment. La librairie publique, au contraire, est beaucoup plus condensée en 7 chapitres notamment. Alors en particulier, après avoir défini la notion et les missions des librairies publiques, dans le premier chapitre, l'auteur insiste sur la nécessité de mettre un terme à l'opposition entre bibliothèques savantes et populaires, dans le chapitre 3 et 4, et sur les rapports entre l'école, les enfants et la bibliothèque, dans le chapitre 5. Il reprend essentiellement les exemples anglo-saxons de bibliothèques. Ces idées aboutissent à nouveau à des propositions pratiques en termes de politique d'acquisition, de politique de site, les rapports avec les éditeurs, le prêt, le libre accès, le personnel, dans le chapitre 6. Donc une organisation un petit peu complexe d'appréhension, mais qui montre que Morel, au-delà des considérations idéologiques, s'intéresse, comme l'a noté déjà Bertrand Calange, aux conditions d'application de ses propositions. Comment, en effet, dans une forme habituelle, Morel met-il la critique acerbe au service de l'action et propose-t-il une pensée pratique de la bibliothèque? Et surtout, dans quelle mesure ces remarques, non seulement dans les chapitres idéologiques, aux logiques et généraux, mais aussi dans les chapitres plus pratiques, sont-ils pertinents de nos jours? Donc, dans un premier temps, nous verrons comment Morel décrit l'état piteux, selon son expression, des bibliothèques françaises, avant de revenir sur les conclusions qu'il tire de ses voyages, en particulier dans les pays anglo-saxons. Enfin, nous nous demanderons dans quelle mesure les solutions pratiques proposées sont pertinentes et réalisables. Les bibliothèques françaises sont en effet dans un état assez déplorable et nous commencerons par la nationale comme le fait Eugène Morel dans Bibliothèque. En effet, Eugène Morel entre à la nationale en 1892 et il a l'occasion d'observer le public et son fonctionnement. Et il constate que l'abondance de public de la nationale détourne la bibliothèque de ses véritables missions. Il fait là une description assez caustique à la Bouvard et Pécuchet de tout un public d'habitués qu'il qualifie de piliers de bibliothèque qui va du pauvre diable, le monsieur retiré des affaires, l'étudiant, le journaliste, autant de personnes qui sont là davantage parce que la bibliothèque est chauffée, est un endroit éclairé, que pour des raisons réellement de travail. Aussi, il est intéressant de noter qu'un projet de salle de lecture pour pouvoir accueillir tout ce public débordant de la Nationale a été effectué. Alors Morel n'est pas complètement opposé à ce projet, mais il remarque, à juste titre, que ce n'est pas la fonction et la mission de la Bibliothèque Nationale d'accueillir un tel public. En effet, l'amélioration de la Nationale et donc le recentrage sur ses missions essentielles que sont la conservation, le dépôt légal en particulier, et la mise en valeur de ses collections, implique qu'un tel public n'afflue pas dans la Bibliothèque Nationale. Donc, recentrons-nous sur les missions de la Bibliothèque Nationale, en particulier le dépôt légal et le catalogue. Le dépôt légal, premièrement, doit être réformé, selon Morel, et systématisé. Rappelons que la loi du 19 mai 1925 a systématisé ce dépôt légal qui voulait tendre jusque-là, qui veut toujours tendre à l'exhaustivité, mais qui ne le tendait pas, qui n'y aboutissait pas. Il souhaitait aussi qu'un seul exemplaire du dépôt légal se trouve dans le magasin au lieu d'avoir plusieurs exemplaires qui encombreraient ces magasins. Deuxièmement, Morel s'attaque à un problème qui fait énormément débat à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs à la Bibliothèque Nationale, à savoir le catalogue général. En effet, nous savons que le catalogue a pris énormément de retard à la Bibliothèque Nationale. Il est qualifié par Morel de catalogue des Danaïdes. Et malgré les efforts de Léopold Delisle, particulièrement dénoncé par Eugène Morel. Rappelons que le premier volume de catalogue général des livres, imprimé et publié en 1897 sous l'administration de Léopold Delisle, mais cette entreprise n'a été achevée qu'en 1981, complétée par des ouvrages par un supplément et ne concernant évidemment que les ouvrages entrés avant 1960. Donc, un débat s'est donc installé dans la profession entre les tenants d'un catalogue général complètement exhaustif et aussi rétrospectif et les tenants, comme Morel, d'un catalogue beaucoup moins exhaustif mais beaucoup plus adapté au public, tel qu'il existe à la British Library, c'est l'exemple qu'il donne, un catalogue courant et fréquemment actualisé. Donc il veut distinguer le catalogue de la bibliographie, des fonctions de bibliographie nationale de la France. Un catalogue, le problème des catalogues est un problème aussi de toutes les bibliothèques françaises. En effet, pour lui, beaucoup de temps et d'argent est consacré par le bibliothécaire à ce catalogue, alors qu'il devrait se recentrer sur le public. C'est pourquoi Morel va jusqu'à faire l'hypothèse d'une bibliothèque sans livres, une de ses idées les plus modernes selon moi. Il s'agirait d'une fabrique de fiches à Paris, par exemple, pour toutes les bibliothèques, à laquelle certaines bibliothèques pourraient contribuer, tout en dispensant aux bibliothèques de province, aux bibliothèques publiques, de perdre du temps en catalogage. Finalement, c'est un petit peu l'idée, il me semble, selon laquelle aujourd'hui les bibliothécaires se basent sur les notices de Sudoc, par exemple, pour faire leurs notices et évite de refaire les mêmes notices à chaque fois. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la Nationale, mais finalement c'est l'œuvre de Morel s'intéresse essentiellement aux bibliothèques populaires et aux bibliothèques savantes. Les autres bibliothèques sont en effet à la fois désorganisées, trop segmentées et peu accueillantes. Morel pousse un cri fondateur dans l'histoire des bibliothèques. « Abat les bibliothèques-musées, abat les populaires », écrit-il dans Bibliothèque. En effet, comme l'a rappelé très justement Marie Galvez, les bibliothèques sont extrêmement segmentées à l'époque de Morel, et celui-ci souhaite en finir avec la segmentation des publics. Segmentation entre bibliothèques savantes et populaires, mais aussi avec les bibliothèques scolaires, bibliothèques marines, bibliothèques rurales, bibliothèques de soldats, enfin, tout un panel de bibliothèques qui oublient de considérer le public comme une unité. Cependant, si Morel plaide pour des bibliothèques publiques uniques et centralisées, cela ne dispense pas l'existence de bibliothèques spécialisées, en particulier destinées à un public très méconnu et très oublié par les bibliothécaires de l'époque, à savoir les scientifiques, les industriels et les commerçants. Ils sont beaucoup trop déconsidérés dans le milieu des bibliothèques à l'époque. C'est pour ça que Morel souhaiterait que les 306 bibliothèques parisiennes de l'époque soient réorganisées et regroupées afin d'avoir plus de visibilité au service d'un tel public. Je reviendrai peu sur les bibliothèques universitaires puisque Morel en parle très peu, mais à nouveau le directeur de la Sorbonne en particulier est particulièrement dénoncé. Non seulement les bibliothèques sont particulièrement segmentées, mais leur public est déconsidéré. Ces bibliothèques sont en effet très peu accueillantes. La révolution de pensée que de Morel, cette révolution quasiment copernicienne, il tient au fait que les collections, donc essentiellement le catalogage et la préservation des collections, n'est plus au cœur de la pensée du public, des bibliothécaires. Mais c'est désormais l'accueil du public. Entre autres questions fondamentales que pose l'accueil du public, la question des horaires d'ouverture est soulevée, et c'est une question particulièrement actuelle, puisque nous pensons à nos débats actuels sur l'ouverture de nuit et le dimanche. En effet, la faible amplitude horaire d'ouverture de l'époque explique la faiblesse du taux de fréquentation des bibliothèques françaises. Je le cite, « La grande raison pour laquelle le public ne va pas dans les bibliothèques, on commence à ne plus l'ignorer, on n'y va pas parce qu'elles sont fermées », écrit-il dans Bibliothèque. Et lui de citer l'exemple anglais, « Une journée passée dans une librairie publique en Angleterre raconte tout cela. Il y a l'heure des ouvriers, l'heure des dames, l'heure des enfants, l'heure des étudiants, l'heure des employés et des patrons. Tout cela s'arrange, évolue en liberté, mais il y a toujours du monde du matin au soir. » Donc cette citation célèbre rappelle bien en quoi les écarts de taux de fréquentation entre les pays anglo-saxons s'expliquent essentiellement par les horaires d'ouverture et la place accordée par le public. Mais ce recentrage sur les missions des bibliothèques et sur le public doit s'accompagner sur le moral d'une professionnalisation des bibliothèques. En effet, le dernier élément de critique acerbe de Morel est l'administration, les professions et les bibliothécaires eux-mêmes. En effet, le recrutement des personnels se fait soit parmi les sous-officiers, ce qui peut poser des problèmes dans la mesure où ils sont opposés au fait des problèmes bibliothéco-économiques, soit parmi les chartistes, il va parler de guerre des chartistes contre les gens de lettres, question sur laquelle il me semble que quelqu'un va revenir, une personne du groupe, ouais, Lydie. Ces chartistes font prédominer en effet l'histoire dans le monde des bibliothèques et cette spécialité est beaucoup trop prééminente. D'autre part, les bibliothèques ont besoin de techniciens et de personnel pour les petites tâches, dactylos, copistes, coursiers, peut-être ce qu'on pourrait appeler les magasiniers aujourd'hui. Et ils dénoncent particulièrement leurs conditions de travail et leur manque de reconnaissance. C'est un moral épris de la cause sociale qui nous apparaît ici. Donc, dotée d'un personnel à la fois qualifié, bien rémunéré, la bibliothèque pourrait se gérer de manière relativement autonome et moins bureaucrate. En effet, nous savons que l'administration des bibliothèques est particulièrement marquée par la présence de l'État et son ingérence, en particulier pour les acquisitions, avec les systèmes des envois que nous connaissons. Donc Morel propose un recentrage général, recentrage sur les bibliothèques et leur mission, avec la distinction entre le rôle de la bibliothèque nationale, les bibliothèques spécialisées, les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires. Recentrage sur le public, en privilégiant l'accueil sur les collections, et professionnalisation des bibliothécaires. Le résultat de cette révolution est la librairie publique, nouveau modèle inspiré de bibliothèques anglo-saxonnes. La notion de librairie publique est une notion créée en réaction à l'opposition entre savante et populaire. Si le terme n'a pas été retenu, par sa connotation commerciale, il reste à l'origine de notre lecture publique. En réalité, Morel veut changer le nom pour changer la chose essentiellement. Quel pédant inventa le mot bibliothèque, laissant le mot français librairie aux Anglais, écrit-il. Alors qu'est-ce que la librairie publique ? Morel en fait une définition assez concise et intéressante. La librairie publique est la mise en commun dans une région de tous les services concernant la lecture. La mise en commun dans une région. En effet, grâce à un impôt commun, la bibliothèque est destinée aux citoyens qui l'ont financée par ses impôts. Premier point. Ensuite, tous les services concernant la lecture, cela dépasse le service d'offrir des livres au public. Cela va beaucoup plus loin. Et la lecture est considérée elle aussi au sens large, en comprenant les périodiques, les livres pratiques, les livres scientifiques, les livres pour enfants notamment. Donc, Morel souhaite, avec la librairie publique, replacer la bibliothèque au cœur de la cité. La librairie publique doit être un service public, municipal, analogue à la voirie, aux hôpitaux et à la lumière, celle du gaz, à l'hygiène, celle du corps. C'est un palais de lecture presque toujours ouvert, pour le citer. La librairie publique répond donc à la fois à une idéologie démocratique et aussi à une idéologie philanthropique. Elle participe à ce rêve philanthropique de Morel qui ne veut plus de bibliothèque, qui veut davantage de bibliothèques pour compenser, donc c'est un petit peu un raisonnement à la mode à l'époque, le nombre d'alcooliques et de prisonniers. Et Morel est conscient du lieu commun qu'il dit ici, mais il y croit quand même. Les trois missions de la bibliothèque publique, la librairie publique, sont bien connues aujourd'hui, on les cite encore. Enseigner, renseigner, distraire. Enseigner d'abord. La bibliothèque se distingue de l'école et en prolonge à la fois l'apprentissage. C'est l'idée de self-improvement à l'américaine ou à l'anglaise que nous connaissons encore aujourd'hui. En effet, la bibliothèque répare, selon son expression, là où l'école a échoué. Elle apprend aussi beaucoup de choses que l'école n'apprend pas. La curiosité, l'effort de la recherche, la discipline et le respect du bien commun dès le plus jeune âge. Morel présente donc un modèle de section juvénile dans la librairie publique, différente des bibliothèques scolaires. Et ces sections jeunesse sont présentées comme possédant des animations particulières, des services particuliers, lecture orale, exposition. Rappelons que Morel participera dans l'entre-deux-guerres à la création de l'heure joyeuse, mais ne doivent pas complètement être séparés des secteurs adultes, dans la mesure où elles ne sont considérées que comme une transition vers le secteur adulte. Deuxièmement, la bibliothèque doit renseigner grâce à une salle de référence et une salle de périodique particulièrement complète. Il est nécessaire pour Morel que la bibliothèque remplace le café, qui est le seul finalement à son époque à fournir autant de périodiques. Il revendique, selon son expression, le droit de lire sans boire dans sa préface aux bibliothèques. Or, la presse, par son pluralisme, est un élément d'accès à la vérité, selon Morel, particulièrement important. Cette idée de pluralisme des collections est encore une notion particulièrement présente aujourd'hui. C'est un facteur d'égalité sociale, d'ailleurs, pour Morel. Il n'y a pas de bons journaux, mais ils se mangent entre eux. Un journal est toujours le phagocyte d'un rival, écrit-il. Il écrit aussi « Ce qu'on peut attendre de la librairie publique, c'est de relever le niveau du combat ». Elle met les journaux et livres en concurrence et place sur le même plan, vis-à-vis du public, le feuillet d'un sou et le beau livre soigné. Donc une importance à la fois des salles de référence, mais surtout des périodiques. Dernièrement, la bibliothèque est un lieu de distraction et Morel insiste sur l'importance des romans, la lecture naturelle de l'humanité, selon son expression. Il propose la création d'une section notamment déliminable avec des livres n'ayant d'intérêt que dans l'actualité. Il faut que nos bibliothèques quittent leurs vêtements d'ennui. Morel s'inspire donc pour réaliser cette librairie de ses voyages à l'étranger. Je vous dirige tout de suite vers Catherine qui a travaillé sur la question. En particulier l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne. Pour l'Allemagne, comme le soulignait Dominique Vary, le modèle est essentiellement un modèle pour la bibliothèque universitaire, bien plus que pour la bibliothèque publique. Il retient de son voyage en Angleterre l'organisation, la centralisation locale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui remplacerait la séparation entre savante et populaire, et l'organisation en branch, ce qu'on pourrait appeler nos annexes, sub-branch, et traveling libraries, qui sont nos bibliobus actuels, en quelque sorte. Donc je n'insiste pas sur cette évocation des bibliothèques étrangères. Enfin, toutes ces idées doivent être appliquées, et c'est pourquoi Morel consacre une grande partie de ses ouvrages aux considérations pratiques. Nous en avons retenu trois types. Les considérations pratiques sur la politique d'acquisition, bien qu'il ne leur donne pas ce nom-là, il écrit un chapitre sur ce qu'il faut avoir. Alors, il énonce des principes d'acquisition avec une certaine assurance, et on peut s'en étonner. Il souhaite avoir des ouvrages pratiques, des ouvrages pour la jeunesse, des références et des périodiques, des romans, comme nous venons de noter. Il énonce aussi les ouvrages à proscrire, ce dont a parlé déjà Bertrand Calange, à savoir tous les ouvrages des intermédiaires, comme il les qualifie, les critiques sur les œuvres et les adaptations. Surtout, autre caractéristique de sa politique d'acquisition, il encourage le désherbage. En effet, le grand cimetière de livres, qui est l'expression, une expression importante de Morel, que constituent les bibliothèques, doivent être supprimés. En effet, l'accumulation des livres, au lieu de favoriser l'essor des pensées neuves, transforme les bibliothèques en nécropoles ou en fosses communes, comme selon l'expression d'Eugène Morel. Après avoir acquis ou géré les collections, Morel s'intéresse aux bâtiments et à son architecture interne et externe. Il écrit là un véritable petit traité de bâtisse et de mécanique qui, dans ses considérations purement architecturales, n'est certes plus toujours pertinent aujourd'hui, mais dans l'idée générale est encore intéressante. L'importance du transport rapide des collections, comme l'a mentionné Bertrand Calange, mais surtout l'importance de l'ouverture sur l'extérieur de la bibliothèque. Il cite M. Chevalet dans son ouvrage: « Je voudrais donc avant tout la bibliothèque populaire au rez-de-chaussée sur la rue, avec une large vitrine et de grandes glaces très claires, qui le soir jetteront largement, joyeusement dans la nuit, une lumière aussi invitante que celle du bar d'en face. » Donc les bibliothèques doivent être largement ouvertes sur la rue et les salles les plus fréquentées doivent être proches de l'entrée de la bibliothèque. C'est tout l'inverse, selon Morel, de l'organisation d'ailleurs de la bibliothèque Sainte-Geneviève, contre-exemple de la librairie publique. Les espaces doivent donc être conçus en fonction des besoins du public. Dans ces espaces, deux services nouveaux capitaux vont être proposés, le prêt gratuit et l'open shelf. Le principe de l'open shelf a posé en effet beaucoup de problèmes à l'époque par crainte de vol et de perte, et résulte d'une sacralisation du livre par les bibliothécaires et d'une méfiance abusive envers les lecteurs. À nouveau, le contre-exemple du modèle de la librairie publique reste la salle Labroust de la Bibliothèque nationale, selon Morel. Il dénonce la séparation complète comme au théâtre, salle et scène, les travailleurs, isolés du dépôt des livres, ceux-ci entassés dans des cages de fer, demandés uniquement par des numéros et amenés mécaniquement. Donc, citation donc, de bibliothèque. Le libre accès des collections au public implique une réflexion sur le classement des collections. En effet, il est un des premiers à distinguer clairement la classification de la classe, du classement, donc une distinction qu'on fait naturellement aujourd'hui, mais qui est intéressante. Doit-on se calquer sur la duo, en effet ? Même s'il est très favorable à la classification duée, il propose de différents classements par périodicité, par format et époque, par langue ou par commodité, par exemple en différenciant les nouveautés, des références, le libre accès, la réserve, les livres interdits de sortie. Enfin, les classements très pratiques. Le deuxième point est particulièrement intéressant, et Bertrand Calange en a parlé, est le prêt de livres gratuit et à domicile. Celui-ci pose deux problèmes. D'une part, la conservation des livres, que Morel, nous l'avons vu, estime secondaire à l'immense service que représente le prêt au lecteur. Et deuxièmement, la gratuité du prêt. Morel, en effet, s'oppose formellement au prêt taxé, mais il s'inspire de systèmes originaux, notamment en Angleterre, effectués par des éditeurs tels le Times, Donc ce modèle évoqué donc anglais est celui du prêt de livres à domicile, mais qui s'apparenterait à une période de test avant lequel le lecteur pourrait décider d'acheter ou non l'ouvrage. Donc il n'existe pas un seul modèle de prêt selon Morel, mais bien plusieurs. Ce programme est-il réalisable ? Morel est conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir. Il s'inquiète de la faisabilité de ses propositions. Donc si c'est un visionnaire, il est aussi réaliste. Cependant, ce n'est pas seulement essentiellement une question de budget pour lui, le problème de la rénovation des bibliothèques. C'est avant tout une affaire d'esprit et d'organisation. Je le cite, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est l'esprit. En effet, pour lui, en commençant modestement par construire une petite bibliothèque ouverte et accueillante, les élus commenceront à s'intéresser aux bibliothèques et à augmenter leur budget. Donc convaincre les pouvoirs publics, c'est déjà transformer la façon de concevoir les bibliothèques publiques. Mais cependant, certaines solutions économiques sont proposées par Morel, le recours à la loterie, l'utilisation des fonds propres de la bibliothèque, même si nous avons vu qu'il était Morel était opposé à une taxe de lecture, et surtout l'impôt. Enfin, pour sensibiliser les élus au débat sur les bibliothèques, il crée la Ligue pour la création des librairies publiques. Enfin, il prévoit sa création pour 1910. Donc, en conclusion, je dirais que lorsque Morel rédige ces deux ouvrages, la France se prépare à la guerre. C'est seulement dans l'entre-deux-guerres que ces idées, soutenues par le courant des avant-gardes et par l'intervention des bibliothèques américaines, trouveront un certain écho. Si une grande partie de ces problèmes soulevés ne trouvent pas de réponse avant longtemps, en particulier concernant le catalogue général ou la bibliographie nationale de la France, de nombreuses questions, nombreuses intuitions restent vraies aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce que ce que nous verrons en conclusion de notre journée d'études, dans quelle mesure sa pensée trouve des échos dans les milieux des bibliothèques.